Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour l'émission d'aujourd'hui, qui est aussi la dernière de cette année 2022, nous allons revenir sur la situation d'un pays qu'on a déjà eu l'occasion de couvrir, de débattre dans le cadre d'autres émissions, c'est la Tunisie, avec notamment une actualité, avec des élections législatives le week-end dernier. Aussi, on reviendra sur la politique du président Kais Saied, qui est très contestée, notamment les questions de liberté publique, mais aussi le renforcement inédit des pouvoirs présidentiels lors de la modification de la Constitution. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Bessis pour en parler avec nous dans la première partie de l'émission. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes historienne, autrice notamment d'une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours chez Taliandier. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels enseignements peut-on tirer de ces élections législatives et notamment d'une participation qui est totalement étonnante? On est à 8% de votants. Comment est-ce qu'on peut analyser cette...
Écoutez, effectivement, le nombre de votants est de 8,8% du corps électoral, c'est-à-dire rien, en gros. C'est-à-dire, on ne peut même plus, à ce niveau-là, parler d'abstention massive. Les Tunisiens et les Tunisiennes n'ont pas voté. Voilà, c'est ce qu'il faut conclure de ce taux de participation, ce qui, quand même, de quelque côté que l'on s'interroge, inflige un démenti cinglant à la volonté du président Kais Saied de changer l'architecture constitutionnelle du pays. Dans la mesure où personne, en définitive, ne croit dans ce pays à cette architecture constitutionnelle qui, pour la résumer d'une phrase, serait une sorte de démocratie par le bas, à laquelle personne ne comprend rien d'ailleurs, dans la mesure où la nouvelle loi électorale concoctée par le chef de l'État est extrêmement cryptique, où les conditions pour être candidat et pour être élu sont relativement incompréhensibles. J'en donne quelques-unes, par exemple. Les candidats n'ont pas le droit d'être présentés par un parti politique. Les partis politiques n'ont pas le droit, en réalité, de présenter des candidats aux élections. Les candidats n'ont pas le droit d'être interviewés par la presse étrangère. Enfin, vous avez une série de dispositions de ce type, les parrainages doivent être uniquement locaux, une série de dispositions qui fait que pour les Tunisiens, ces élections étaient relativement incompréhensibles. Et qui plus est, dans la mesure où les pouvoirs du Parlement sont réduits drastiquement, et comme vous le disiez, les pouvoirs du président de la République englobent la totalité du champ exécutif législative et judiciaire, puisque le président de la République, il y a quelques mois, avait déclaré que la séparation des pouvoirs, cela n'existait pas, et qu'il n'y avait qu'une séparation des fonctions. Et vous voyez que actuellement, on est dans une sorte d'omniprésidence en Tunisie, et d'omniprésidence de moins en moins lisible, dans la mesure où les décisions institutionnelles qui sont prises ne sont pas lisibles par la majorité de la population. Elle l'a montré en n'allant pas voter.
Alors vous avez dit aussi que la Tunisie était en train de basculer vers un régime dictatorial et que pour vous...
Non, je n'ai pas employé le terme de dictatorial, j'ai parlé d'une omniprésidence.
D'accord. Et donc vous dites que la manière dont le président Kais Saied exerce son pouvoir, avec y compris une extension progressive à tous les leviers, peut-être une modalité tunisienne de la contre-révolution qu'on a vue à l'œuvre dans les autres pays arabes.
Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a quelques mois, en disant que l'on assistait effectivement en Tunisie, incontestablement, à une modalité locale, une modalité nationale de la contre-révolution. Alors la rhétorique du chef de l'État est assez étrange en la matière, dans la mesure où il se présente comme le seul révolutionnaire. En fait, en arguant du fait que la révolution aurait été confisquée par qui, on ne sait pas très bien, le 14 janvier 2011, puisque de son propre chef, alors que depuis la révolution, le 14 janvier était le jour de la fête nationale, il l'a changé pour remettre le jour de la fête nationale le 17 décembre, c'est-à-dire le jour de l'immolation de Mohamed Bouaziz, le fameux vendeur de légumes de Sidi Bouzid. Et pour lui, le jour où le dictateur Zine El Abidine Ben Ali a été chassé, c'est-à-dire le 14 janvier 2011, n'a rigoureusement aucune importance. Et il en parle comme d'une contre-révolution. Donc pour lui, les 10 années qui se sont écoulées entre 2011 et 2020, eh bien, jusqu'à son élection, 10 octobre 2019, eh bien, sont des années de contre-révolution. Donc, vous voyez, ce qui est tout à fait particulier chez cet homme, c'est que il emploie un vocabulaire révolutionnaire pour mettre en place un pouvoir qui est effectivement contre-révolutionnaire, puisque, sans le moindre doute, il s'agit d'une dérive autoritaire dans la mesure où la constitution qu'il a écrite tout seul, la pratique actuelle de son pouvoir donne l'illustration, sont la manifestation d'une dérive autoritaire incontestable.
Alors la Tunisie avait, vous l'avez rappelé, démarré la séquence dite des printemps arabes, et puis pendant longtemps, alors même que dans beaucoup de pays, effectivement, on assistait à des retours en arrière, au retour de pouvoir autoritaire, pendant longtemps, la Tunisie était montrée un peu en exemple comme le pays qui maintenait une vitalité démocratique et souhaitait l'ancrer durablement. Comment vous expliquez qu'en finalement très peu de temps, on soit passé effectivement d'un vent d'espoir, d'une démocratie un peu exemplaire, à un régime bien de plus en plus autoritaire?
Je ne dirais pas en très peu de temps, en réalité. Il a fallu effectivement de... Vous avez plusieurs séquences dans cette décennie post-révolutionnaire. Et il est vrai que la séquence... dans chacune de ces séquences, vous avez eu des atteintes, des égratignures au fonctionnement, à l'apprentissage de la démocratie. Les partis politiques qui ont dominé la vie politique tunisienne, à commencer par le parti islamiste Nahda, eh bien, ont tout de suite versé dans une pratique presque ancien régime, dirais-je, du pouvoir, c'est-à-dire une pratique clientéliste, une pratique rentière, sans aucune vision, en fait, pour l'avenir de la Tunisie, et ont œuvré dans le sens, chacun de ces partis, pour la sauvegarde de leurs propres intérêts et de l'intérêt de leurs dirigeants. Et les Tunisiens et les Tunisiennes se sont très vite aperçus de ces dysfonctionnements. Le drame, si vous voulez, il y a eu une série de dysfonctionnements de cette marche vers la démocratie. Le drame, c'est que les Tunisiens et les Tunisiennes ont pris ces dysfonctionnements, ont pris ces dévoiements pour une incapacité de la démocratie elle-même à résoudre les problèmes de la Tunisie. Et donc, se sont désintéressés de la vie politique, et ce désintérêt de la vie politique, eh bien, a favorisé l'émergence d'un homme qui s'est présenté comme un homme anti-système en 2019, c'est-à-dire M. Kais Saïd, qui a gagné les élections sur des rhétoriques tout à fait populistes et anti-système.
Alors justement, Kais Saïd a d'abord gagné les élections, puis ensuite il a modifié la constitution.
Il n'a pas modifié, il a écrit une nouvelle constitution.
Il a écrit une nouvelle constitution qu'il a fait adopter par référendum. Maintenant, il semblerait qu'on soit dans une étape où il y a des décisions du pouvoir qui portent atteinte à la liberté d'expression, à la liberté des médias, à la liberté
Tout à fait. Alors, de ce côté-là, les choses ne sont pas encore, si je puis dire, totalement fermées. Non, il y a des radios, il y a des journaux qui s'expriment et qui sont tout à fait critiques vis-à-vis de la gestion présidentielle de la chose publique, si tant est que l'on puisse parler de gestion dans la mesure où il n'y en a pas vraiment. Donc il y a encore des voix critiques qui s'expriment, mais le chef de l'État étant convaincu qu'il incarne le peuple et que donc entre le peuple et lui, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire, est en train petit à petit de réduire, disons, à leur plus simple expression, aussi bien les voix des partis politiques que les voix de la société civile. Je vous disais il y a un instant que les partis politiques n'ont pas eu le droit de présenter des candidats et que les candidats, une des conditions pour être candidat était de ne pas être présenté par un parti. Il y a des projets de loi encadrant les activités de la société civile qui sont extrêmement dangereux, et les élections, le premier tour des élections qui vient d'avoir lieu montre que les standards minima d'une consultation électorale normale n'ont pas été respectés. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la commission Carter au lendemain des élections. La commission de Genève de l'Union européenne avait également, au moment de la nouvelle loi électorale, exprimé ses préoccupations. Donc, et préoccupations supplémentaires, on a rarement vu ça tout de même sur la planète, c'est que le deuxième tour des élections législatives ne devrait avoir lieu que d'ici à peu près 3 mois.
C'est incroyable.
Donc, une distance, si vous voulez, de 3 mois entre le premier et le deuxième tour des élections autorise toutes les inquiétudes.
Oui, c'est un processus électoral comme on en voit rarement, voire même...
Oui, alors on sait très bien que dans les pouvoirs autoritaires et dictatoriaux, les élections sont truquées. Partout, je veux dire, dans une bonne partie des États de la planète, les élections sont truquées. Pour autant, les apparences sont sauvegardées souvent. Or ici, les apparences ne sont pas sauvegardées. On est dans un processus tout à fait inverse. C'est que, visiblement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les élections ne sont pas truquées. Les chiffres ne sont pas truqués, parce que sinon, évidemment, on aurait truqué le chiffre de 8,8% de...
Pour avoir une participation plus élevée.
D'électeurs, bien entendu. Les élections ne sont pas... Les élections ne sont pas truquées, les chiffres ne sont pas truqués, mais elles n'ont aucun sens. Puisque quand un pays tout entier ne va pas voter, alors certes, il y avait des taux d'abstention aux élections précédentes qui étaient relativement importants. Jamais, il n'y a jamais eu plus de 60%, et le plus souvent moins, des Tunisiens qui sont allés voter depuis 2011. Mais aujourd'hui, le chiffre de moins de 9% est un chiffre assez surréaliste, il faut bien le dire.
Alors, ça correspond aussi à un état du paysage politique tunisien qui est un peu... je dirais dévasté, beaucoup de partis politiques ont perdu de la crédibilité lors des
incontestablement.
Années...
Incontestablement, d'autant que lors des élections législatives d'octobre 2019, on a vu monter des partis politiques populistes et des partis politiques d'une sorte à la droite d'un arva, d'une espèce de d'islamo-nationalisme, mais avec un niveau de culture politique au-dessous de zéro, il faut bien le dire, et l'apparition de ce type de parti qui n'avait ni projet, ni programme, ni connaissance des réalités et des besoins économiques et sociaux de la Tunisie, eh bien, a contribué, effectivement, à décrédibiliser auprès des citoyens la chose publique.
Alors, on l'a vu... Après avoir, créé une constitution à sa main, le président a voulu vraiment contrôler le processus électoral qui est en cours. Il a aussi, fragilisé les contre-pouvoirs. Est-ce qu'il reste encore quand même en Tunisie une organisation capable de créer un mouvement ou en tout cas de mettre la pression sur le gouvernement comme l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du
Bien
travail,
sûr, on parle toujours de l'UGTT, qui est un acteur politique central dans la vie politique tunisienne, incontestablement. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est que lors du coup de force du 25 juillet 2021, par lequel le président Kais Saied a gelé les activités de l'Assemblée nationale et a gelé toutes les activités, l'UGTT s'est montré favorable à ce coup de force, en disant, comme beaucoup d'ailleurs, comme une grande partie de l'opinion publique tunisienne, en disant qu'il fallait mettre fin à la gabegie qui régnait, et que s'il fallait passer par un coup de force pour mettre fin à la gabegie qui régnait, bien c'était très bien. Et d'abord, donc, il y a eu un soutien franc et massif de l'UGTT, ensuite un attentisme très prudent, à mesure, si vous voulez, que le chef de l'État prenait des décisions de plus en plus autoritaires et solitaires. Et là, en revanche, l'UGTT, récemment, a pris une position très claire et se situe désormais dans l'opposition. Il faut dire qu'il y a la question économique également. La Tunisie est depuis longtemps en négociation avec le Fonds monétaire international pour un prêt, et il semblait que le dossier était clos, c'est-à-dire que le Fonds monétaire international allait accorder un prêt de 1,9 milliard de dollars sur 48 mois à la Tunisie, et la chose devait être signée définitivement, devait être acceptée par le conseil d'administration du fonds, il y a trois jours, le 19 décembre, si mes souvenirs sont bons. Or, le fonds a repoussé sa décision, n'a pas accordé ce prêt pour l'instant, et les conditions de ce prêt, en fait, rien n'a été rendu public en Tunisie. Donc les conditions de ce prêt, l'UGTT avait demandé à connaître les conditions du prêt et les préconisations, les conditionnalités du Fonds monétaire international, d'un côté. Et donc, dans la mesure où ces conditionnalités n'ont pas été rendues publiques, l'UGTT s'est insurgé contre cette sorte de secret. Et du côté du Fonds monétaire, eh bien, dans la mesure où on est toujours dans une gabegie, en réalité, du fait que le chef de l'État ne s'intéresse qu'à son architecture constitutionnelle et à rien d'autre, eh bien, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre et il n'y a toujours pas de loi de finances 2023. Donc, le Fonds monétaire international a dit qu'il ne pouvait pas accorder un prêt à un pays qui n'avait pas de loi de finances. Et donc, le GTT s'alarme, disons, des conditions extrêmement opaques dans lesquelles, se déploient les décisions économiques et financières du pays.
Oui, on l'aura compris, c'est aussi dans un contexte économique et social extrêmement tendu que se sont déroulés tous les événements.
Oui, l'inflation avoisine les 10%, donc c'est énorme.
C'est énorme. Et ça a pu contribuer aussi à la désaffection des Tunisiens pour ces élections, puisqu'ils ont probablement...
Oui, bien entendu, les préoccupations économiques et sociales sont des préoccupations tout à fait prioritaires pour la majorité des Tunisiens, incontestablement.
Merci beaucoup, Sophie Bessis, d'avoir accepté notre invitation, répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historienne, également autrice d'une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours chez Taliandier. Et on avait le plaisir de vous recevoir pour la première fois dans l'émission. Et on vous remercie encore une fois pour cette
entretien. Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour la deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Wissal Ayadi. Bonjour.
Bonjour, bonjour Alexis.
Alors vous travaillez notamment pour l'AFP, vous avez couvert les élections législatives, vous êtes basé à Tunis, vous avez également, vous travaillez également pour un site internet d'information, également vous avez une émission de radio le dimanche. Donc on vous remercie malgré tout d'avoir trouvé le temps pour répondre à quelques questions sur la situation politique tunisienne. On s'intéresse évidemment au premier tour de ces élections législatives et on essaye un petit peu de comprendre où en est le pays et dans quelle situation on se trouve. Ma première question, ça sera peut-être pour évoquer la participation, 8,8%. Sophie Bessis nous disait qu'elle considérait que de fait, les Tunisiens s'étaient totalement désintéressés de ces élections et que la participation traduisait quand même un profond malaise.
Voilà, exactement. En fait, si vous voulez, la situation politique aujourd'hui en Tunisie, elle est dans l'impasse. On va dire dans l'impasse d'un manque de confiance totale dans les politiques qui dirigent aujourd'hui la Tunisie. Et ça s'est traduit justement dimanche par ce taux de participation record qu'on a eu en Tunisie, 8,8%, soit 800 000 votants. Qui est vraiment la première fois, c'est la première fois que ça arrive en Tunisie. D'habitude, on a toujours un minimum de, des chiffres normaux, on va dire 30%. Au dernier référendum, on était à 30% de participation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des élections législatives qui sont censées élire un parlement qui va représenter justement le peuple tunisien. Et on se retrouve avec un taux de participation de 8,8%.
Alors,
donc, comme je vous disais, Alexis, ça représente vraiment un manque de confiance, un manque de vision aussi. Les Tunisiens ne voient plus d'avenir meilleur en Tunisie, entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui l'État, le gouvernement, les politiques ne leur proposent plus plus grand chose en fait.
Alors, il y a plusieurs raisons, plusieurs explications. Hein. Il semblerait qu'il y ait aussi une manière de sélectionner les candidats qui a des règles électorales complexes. Les Tunisiens avaient du mal à comprendre qui étaient les candidats. Et puis, il y a aussi une raison peut-être encore plus profonde, c'est l'hyper-présidentialisation du régime avec l'adoption de la nouvelle constitution écrite par Kais Saied, le président. Mmh. Où on a une recentralisation de la plupart des pouvoirs au niveau de l'institution présidentielle.
Exactement. Le 25 juillet dernier a été voté le dernier référendum sur la nouvelle constitution. Il y a eu aussi justement le changement de la loi électorale qui a mis de nouvelles lois qui régissent aujourd'hui les nouvelles dispositions par rapport aux élections. On a notamment plusieurs textes là-dessus qui ont considérablement changé aujourd'hui la donne quant aux élections en Tunisie. Aujourd'hui, nous n'avons plus en Tunisie, on ne peut plus faire appel aux partis politiques pour financer, que ce soit participer ou financer les campagnes électorales des candidats. L'État aussi s'est désengagé de cette démocratie, c'est un désengagement de la démocratie, puisque l'État aujourd'hui a décidé de couper les vannes des financements publics des élections, c'est-à-dire que les candidats aujourd'hui n'ont plus de financement public pour financer leur campagne électorale. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec 1500 candidats qui ont été répartis sur tout le territoire tunisien, avec des circonscriptions qui n'ont même pas de candidats aussi. Je rappelle qu'en Tunisie, il y a eu, lors des dernières élections législatives, 10% des circonscriptions qui n'ont pas de candidats, où il n'y a personne qui s'est présenté, parce qu'il y a eu un redécoupage des circonscriptions. On se retrouve avec des super circonscriptions de plusieurs centaines de milliers d'habitants, et au contraire, des plus petites circonscriptions où on ne retrouve pas de candidats, où personne n'a voulu se présenter. Donc du coup, ça fera l'objet d'un deuxième tour aux élections, et on ne sait pas encore aujourd'hui comment ça va fonctionner. Mais comme je vous disais, Alexis, aujourd'hui, le financement partisan de la campagne électorale a affecté vraiment le paysage des candidats qui sont présentés. Aujourd'hui, les Tunisiens, quand vous discutez avec eux, et comme je l'ai fait lors de l'élection de samedi dernier, vous leur dites, mais vous savez pour qui vous votez? On nous a dit non, on ne sait pas pour qui voter. On nous a demandé de venir voter, on nous a décrit la personne qui était sur le bulletin, c'est-à-dire le visage de la personne qui est sur le bulletin, parce qu'aujourd'hui, sur les bulletins, il n'y a que des photos, il faut mettre une croix devant. Mmh. On nous a décrit la personne, et on a mis une croix, et c'est tout. Et c'est comme ça, aujourd'hui, dans tous les bureaux de vote. Moi, j'ai été dans un bureau de vote, j'ai dû attendre une heure et demie avant d'avoir un premier votant qui a franchi le bureau de vote.
Oui, la journée électorale a dû être très longue dans les bureaux de vote. Autre sujet d'étonnement, c'est la durée entre les deux tours.
Oui.
On a un deuxième tour dans 3 mois.
Alors, on a un deuxième tour dans 3 mois, sachant qu'il y a encore quelques semaines, quelques jours, on ne savait même pas qu'il y avait un deuxième tour. Donc, ça aussi, c'est une situation qui est quand même assez complexe. Nous-mêmes, journalistes, nous-mêmes, hommes de médias, on ne sait pas comment ça va se passer. On nous avait dit que les résultats définitifs allaient sortir le 20 mars prochain. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer, dans quelle mesure, quel va être le sort justement des circonscriptions qui n'ont pas de candidat. Donc sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on a un temps qui est très très long. Après, pour les élections présidentielles et les élections législatives précédentes, c'est vrai que c'est un peu comme, quelque chose de surprenant d'avoir des résultats qui sont très longs. Souvent, on a des résultats qui arrivent 2 mois après, mais là, c'est vrai qu'il y a un temps entre les deux tours qui est juste incroyable, parce que d'habitude, on a un mois maximum entre le premier tour, par exemple, d'une présidentielle et le deuxième tour.
Alors, on s'en rappelle, hein, en 2011, la Tunisie a été le premier pays faire tomber son président pour initier la séquence des printemps arabes. Et dans la décennie qui a suivi, c'était un pays qui était souvent montré en exemple pour sa vitalité démocratique, le fonctionnement de son parlement. Bon, qu'est-ce qui s'est déréglé et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation de confusion avec des partis politiques démonétisés, une recentralisation des pouvoirs autour de la personnalité du président Kais Saied. Aujourd'hui, on a l'impression que la révolution a été un peu gâchée.
La révolution a été gâchée, Alexis, dans le sens où aujourd'hui, on a eu des politiques et des dirigeants en Tunisie qui n'ont pas su se saisir de l'opportunité d'une révolution et de la démocratie qui pourrait en découler. Aujourd'hui, on a eu un parlement qui s'est arrogé beaucoup plus de pouvoir qu'il ne l'avait. On a un parlement qui s'est politisé dans un pays où on a eu 40 ans de dictature, où les partis politiques n'avaient aucun droit de parole et aucune existence. Donc, en fait, il y a eu une hyper... c'est-à-dire que les partis politiques se sont montrés beaucoup plus qu'ils ne le devaient l'être, en s'arrogeant beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne pensaient l'avoir. En tout cas, aujourd'hui, on a eu un parlement depuis 2011, on avait un parlement, surtout depuis les élections de 2019, un parlement complètement,
transformé.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup trop de blocs parlementaires, beaucoup trop de partis politiques.
Un émiettement.
Voilà, un émiettement,
qui exactement. C'est souvent signe d'une mauvaise santé démocratique.
C'est tellement en français, voilà, exactement. Un émiettement, un effritement aussi du paysage politique dans l'Assemblée, ce qui a donné un certain nombre de tensions, un certain nombre, on a vu des violences, on a vu des bagarres au sein de l'Assemblée, des choses qu'on pensait que ça allait jamais arriver en Tunisie, parce que c'est pas la culture tunisienne de se bagarrer en politique, etc. Et aujourd'hui, on a eu un parlement, voilà, le dernier parlement, c'était des bagarres, des violences, des coups bas, des alliances qui se font et qui se défont, des blocs parlementaires qui vont d'un bloc à l'autre et qui se baladent selon les opportunités politiques. À un moment donné, peut-être que Kais Saied a pris la bonne décision d'ouvrir ce parlement et d'y mettre fin, mais la manière dont ce nouveau parlement et notamment les pouvoirs de ce nouveau parlement ne seront absolument pas les mêmes que l'ancien parlement. Aujourd'hui, on ne parle plus de parlementaires qui feront les lois de demain. Aujourd'hui, on parle d'un super conseil municipal, un super conseil régional, parce que ces candidats, parce que ces futurs parlementaires ont basé leur programme que sur des promesses locales, municipales, alors qu'on sait très bien que le premier rôle d'un parlement, c'est de faire les lois.
Alors, on se rappelle effectivement que Kais Saied s'était emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021, y compris à l'époque avec le soutien grande partie du peuple tunisien, hein, qui était un peu agacé de ce désordre permanent, et aussi avec le soutien de l'UGTT, le grand syndicat des travailleurs tunisiens.
La grande centrale syndicale. Hein,
donc, qui à l'époque voulait aussi remettre un peu d'ordre dans le pays, mais depuis, notamment à cause des négociations un peu opaques entre le gouvernement tunisien et le FMI, l'UGTT se positionne maintenant plutôt en opposition au président et finalement un peu le dernier contre-pouvoir, puisque les partis politiques sont un peu, comme on vient de le décrire, discrédités.
Bien sûr, alors les partis politiques de leur côté, ils sont discrédités, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un front d'opposition, je commence par la fin de la question, mais on a un front d'opposition qui aujourd'hui fait des manifestations, qui fait des conférences de presse, qui fait des choses, mais sans pour autant avoir vraiment une force de pression directe sur ce qui se passe en Tunisie. Après, en ce qui concerne l'UGTT et le gouvernement, en fait, ça fait plusieurs semaines, ces dernières semaines, que le ton s'est durci du côté de l'UGTT à cause, justement, des soi-disant négociations opaques qu'il y a eu entre, pour avoir l'accord technique entre le gouvernement tunisien et le staff technique du FMI. Alors, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été posées sur la table justement pour l'obtention de cet accord. Il y a eu la réforme des entreprises publiques. Il y a eu qui est justement le point un peu épineux pour le GTT, justement, qui veut avoir son mot à dire justement dans ce dossier sur les entreprises publiques, parce qu'aujourd'hui en Tunisie, il faut savoir qu'on a des entreprises publiques qui sont déficitaires, dont la situation financière est très très préoccupante. Et on parle aujourd'hui d'une restructuration, mais c'est en quelque sorte un projet de privatisation de certaines entreprises publiques. Après, aujourd'hui, le gouvernement, par manque de vision, par manque de stratégie, est incapable de faire le tri entre les entreprises dites stratégiques, les entreprises qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, ça pose un vrai problème parce que on ne sait pas aujourd'hui qui sera privatisé, qui ne le sera pas. C'est complètement flou et du coup, l'UGTT profite un peu de ce flou et de cette opacité pour reprendre un peu la main sur justement pour avoir leur mot à dire sur les négociations avec avec le FMI. Après, aujourd'hui, on a eu l'accord avec le FMI devait être validé ou non par le board du FMI hier, ce lundi 19 décembre. Ça a été repoussé, ça a été reporté à une date ultérieure. Aucune date n'a été donnée selon les experts économiques tunisiens. Il s'agit d'un on attend. C'est-à-dire que le FMI attend d'avoir la loi de finances, attend de voir un peu aussi où est-ce que la Tunisie peut aller encore plus loin sur ses réformes, notamment avec l'augmentation des prix des hydrocarbures, avec tout ça. Donc c'est vrai que le FMI on a eu un accord technique avec le FMI, certes, mais il y a encore certaines conditions qui doivent être remplies pour pouvoir avoir un OK et enfin pouvoir avoir le déblocage justement de cette dernière tranche, de cette première tranche, parce qu'aujourd'hui le FMI ne veut plus s'engager dans des projets qui vont échouer au bout de 6 mois. Et comme ça a été le cas en 2013 et 2016, lors des précédents accords avec le FMI.
Alors, une toute dernière question, mais vraiment il nous reste très peu de temps, mais c'est important parce que cette question du prêt du FMI, on parle d'un milliard, 1,9 milliard de dollars, c'est un peu essentiel vu la situation économique et sociale du pays et les difficultés, vous l'avez rappelé, des entreprises publiques, mais aussi de l'État tunisien.
On a des finances publiques qui sont au plus bas. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont à sec. On a vu le dernier déplacement, d'ailleurs, de Madame Najla Boudène, la chef du gouvernement, qui s'est rendue en Algérie pour l'obtention d'un accord de prêt auprès de l'Algérie, parce qu'on sait que voilà, aujourd'hui, les caisses de l'État, elles sont à sec. Et malheureusement, ce report, justement, de cet accord du board du FMI repousse encore plus les échéances auprès de nos autres bailleurs de fonds, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, je pense à la Banque mondiale, je pense à d'autres pays, surtout des pays, la France,
l'Union européenne, la France.
Voilà, exactement, et d'autres multilatéraux, comme je vous disais, la Banque mondiale, la BAD, etc. etc. Ce sont des acteurs qui sont très importants dans l'économie tunisienne parce que c'est eux qui financent un certain nombre de projets et ils attendent justement la garantie de cet accord avec le FMI pour pouvoir eux aussi négocier avec l'État tunisien afin d'avoir un certain nombre de prêts. Aujourd'hui, comme je vous disais Alexis, la Tunisie est dans un gouffre financier. Plus l'accord avec le FMI sera repoussé et plus ce sera difficile parce qu'il va falloir justement dans cet accord technique revoir les besoins de financement, revoir les taux de croissance, etc. etc. Donc plus tôt la Tunisie obtiendra cet accord avec le FMI et moins ce sera difficile par la suite.
Merci beaucoup Wissala Hadi. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, que vous travaillez pour plusieurs médias en Tunisie et aussi pour l'AFP. Vous avez couvert notamment les dernières élections législatives. On vous remercie pour avoir répondu à nos questions et on y voit peut-être un peu plus clair sur ce qui se passe en Tunisie. Encore que, on l'a vu avec vous et avec Sophie Bessis, la situation est compliquée. Merci beaucoup en tout cas. Et j'en profite, puisque c'est la dernière émission de l'année, pour souhaiter aussi de joyeuses fêtes à tous nos auditeurs, à nos auditrices. Et merci encore, Wissal, pour avoir accepté cette invitation. C'était la dernière de « Et si on en parlait ?» en 2022. À l'année prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.